Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport, on est ensemble jusqu'à midi, évidemment, on est avec Pascal Duprat, avec Fred Weiss, avec Sarah Pitkowski. Tiens, comme tous les week-ends, je voudrais faire un appel à la libération de Christophe Glaize, journaliste sportif français condamné à 7 ans de prison en Algérie, injustement détenu depuis le 29 juin 2025, simplement pour avoir exercé son travail de journaliste pour le magazine SoFoot. On sait qu'il y a une accréditation un peu symbolique qui avait été faite pour lui au début de la Coupe du Monde par la FIFA. Voilà, il est toujours détenu aujourd'hui, on pense fort à lui ce matin et on souhaite que les choses avancent rapidement. On pense à lui et ses proches, évidemment, comme toujours dans les GG. Vous retrouvez les deux premières heures en podcast sur les plateformes. Évidemment, on a parlé du Tour de France. Est-ce qu'on a inquiet avec des victoires françaises qui manquent? On a parlé de Didier Deschamps. Est-ce qu'on va le regretter? Il va jouer son dernier match sur le banc des Bleus ce soir. Éric Dimeco était avec nous. On a du live en ce moment, du direct, avec le 15 de France qui joue au Japon. Pierre Thévenet, c'est le championnat des nations.
Et ça va mieux pour les tricolores. 24e minute de jeu, deux essais coup sur coup, marqué d'abord par Mathieu Jalibert, l'arrière bordelais, après un beau ballon porté, et puis sur à nouveau un ballon porté à l'instant, c'est Alexandre Roumat, le troisième ligne centre toulousain, qui vient marquer pour son retour en bleu, et les Français mènent 19 à 8 avant la transformation de Maxime Lucu. On joue la 24e minute.
Dans un instant, les GG sur le buzzer. Une défaite des Bleus face aux Anglais ferait-elle tâche ce soir pour la troisième place? En fin d'émission, participez au jeu du sport avec nous ce week-end, remporter un bon cadeau de 50 euros à valoir sur Alpha Photo Print, hein, c'est les vacances, donc c'est l'occasion de faire de super albums photo, d'imprimer des photos sur un mug, un grand mug pour Fred par exemple.
Un grand bol, moi je mets sur des bols.
Tu bois dans un mug, ouais. Tu bois dans un mug ou dans un bol?
Dans un grand bol.
C'est vrai, parce qu'il y a, ouais, deux, il y a deux équipes. Hein.
Oui, mais c'est l'ancienne. Hein,
c'est vrai, tu peux
mettre une belle photo.
Tu mets ta chicorée.
Exactement.
C'est vrai?
Mais oui.
C'est fou ça.
Mais oui, j'adore ça.
C'est pas un grand bol qu'il faut, c'est un énorme saladier si on veut mettre ta photo dessus.
Alors objectivement, c'est un grand bol pour moi, un énorme saladier. Qui est pour toi un saladier, pour moi c'est un bol.
Il est grand, mais est-ce qu'il a la grosse tête, Fred? Non, je crois
non,
pas justement.
Non, c'est proportionnel.
Ni symboliquement. Allez, pour participer et remporter votre bon cadeau Agfa Photo Print, appelez le 32-16, touche 4, ou envoyez sport au 7-32-16. Sport au 7-32-16. Allez, tout de suite, les GG, vous nous ouvrez la porte de votre vestiaire.
RMC, le vestiaire des GG.
Les GG, cette semaine, ce qui m'a marqué, ce sont les remarques, parfois très dures, contre notre équipe de France cette semaine. Alors, les héros enthousiasmants de tout un pays jusqu'à la demi-finale. On a entendu Olysée, nouveau Platini, nouveau Zidane, Mbappé le plus grand. On l'a dit ici, on s'est enthousiasmé. Et c'est vrai qu'après la défaite, on a entendu, et même sur notre antenne, hein, il faut savoir en parler sans problème. C'est ça, RMC, on débat de tout. Des critiques dans tous les sens et aussi sur des chaînes de télévision sportive. J'ai entendu une arnaque, on s'est complètement planté sur eux. J'ai tout entendu. Hein. On est passé pour certains de tout à rien. Que vous soyez d'accord ou pas, c'est pas vraiment le sujet du vestiaire aujourd'hui. Je voudrais qu'on parle à travers vos expériences de ce sentiment dans le sport de haut niveau. Quand on est porté au nu et ensuite d'un coup du jour au lendemain, presque, on n'est plus rien. On est passé du héros à zéro, du héros national, bah, je vais pas dire au paria, mais à un coupable d'avoir manqué à nos émotions d'une certaine façon. Fred, tiens, on commence par toi. Ça te parle, ça?
Ouais, ça me parle énormément, parce que j'ai eu la chance d'avoir un début de carrière assez fulgurant. Je me suis retrouvé à Limoges, j'étais dans 5 majeurs. D'un seul coup, je suis devenu un des joueurs les plus importants de la première division française à l'époque, parce qu'on appelait ça la Pro A à l'époque. Et je me suis blessé, et c'est vrai que en me blessant, j'ai eu un vrai coup d'arrêt, et je me suis retrouvé à des situations où je me blesse l'année où je suis drafté par la NBA.
On rappelle donc, que tu es drafté au New York Knicks.
Je suis drafté au New York Knicks en 15e position. Donc déjà, je vais là-bas, je me fais dézinguer parce que ça fait 7 mois que j'avais pas joué au basket quand même.
Fred, rappelle, pour ceux qui te connaissent pas, hein, t'étais à l'époque un ovni, toi aussi, hein. T'étais pas Wemby, mais pas loin.
Enfin, dans ce qui était vendu, oui, parce que c'est vrai qu'ils avaient jamais vu un garçon aussi grand bouger aussi vite.
Ouais.
Donc c'est vrai que c'était assez surprenant pour eux. Et d'un seul coup, je me retrouve à être drafté en NBA, mais à aller faire une Summer League, donc la ligue d'été juste après la draft, dans des conditions physiques très déplorables. Encore une fois, 7 mois sans jouer, c'est énorme. Je venais de me faire opérer du dos, hernie discale, donc ça change beaucoup de choses dans ton jeu, etc. Et donc, je décide de revenir en France. Je me dis, j'ai besoin justement de retrouver un petit peu de la confiance, etc.
Un environnement bienveillant peut-être, où on t'a célébré.
Et donc j'étais vraiment, encore une fois, vraiment adoré. J'étais dans le 5 majeur de mon équipe. J'étais au All-Star Game, j'étais en 5 majeur du All-Star Game français, etc. Et je me retrouve à jouer mon premier match et je me rappellerai toute ma vie ce qu'a dit le commentateur après le match. Il a dit, Fred Weiss était en difficulté aux États-Unis, mais il va falloir qu'il en montre un petit peu plus, parce qu'il n'a pas été très bon ce soir. Et ça résonne dans ma tête encore maintenant. C'est-à-dire que ce jour-là, j'ai pris de plein fouet le fait que jusque-là, on m'a porté au nu et que d'un seul coup, il y a eu un coup d'arrêt. On ne pardonnait plus rien. Que d'un seul coup, mes 7 mois d'arrêt, mes difficultés à revenir. Il faut se rappeler encore une fois que c'était une blessure qui était assez sérieuse et assez grave. Et je n'avais que 21 ans.
Alors que tu étais aussi revenu en France finalement pour ça aussi, pour te sentir un peu accompagné.
Coucouné peut-être, ouais, même, ouais. Un petit peu, parce que c'est vrai que c'est difficile de ce que j'avais pris aux États-Unis. Et d'un seul coup, j'étais un paria, j'étais nul. Quoi que je fasse, ça n'allait pas. Et à partir de là, chaque fois que je venais en équipe de France, c'était de ma faute. C'est-à-dire que à chaque fois que l'équipe de France avait une performance, on ne disait rien de moi. Chaque fois que l'équipe de France avait une contre-performance, on m'attaquait et c'était moi le responsable. Et c'est vrai que à cette époque-là, quand, encore une fois, t'as 22 ans, enfin t'as 21 ans, 22 ans, 23 ans, t'es pas forcément armé à ça. Et c'est vrai que t'as pas l'expérience pour te dire que t'es pas aussi bon qu'on l'avait dit au début, mais t'es pas aussi mauvais qu'on est en train de le dire maintenant. Et c'est vrai que ça manque d'accompagnement et que d'un seul coup se retrouver.
T'es pas préparé à ça. Rien ne te prépare à ça.
T'es cloué au pilori. En fait, les attentes énormes que ça avait engendrées, ben, d'un seul coup, c'est l'effet boomerang. Et tu le reprends dans la tronche en disant, on attendait beaucoup de lui, il n'est pas capable d'honorer ce qu'il a fait. Et ça a été, pour moi, extrêmement difficile à vivre. Et l'expérience m'a permis de passer outre ça, une nouvelle fois. Mais à 21, 22, 23 ans, t'es encore un gars.
Ouais, mais c'est les choses qui te marquent dans la chair, et tu le dis encore, et on en parle souvent.
Encore maintenant, pour pas le citer, c'est David Cosette qui avait dit ça.
La voix du basket.
Encore maintenant, dans ma tête, je lui envoie encore un petit peu. Je lui dis, mais pourquoi tu m'attaques? Je reviens, je fais l'effort d'essayer de faire des efforts, justement, ce qu'elle veut dire. Et malgré ça, tu m'attaques. Et je me dis, mais en fait.
En fait, c'est surtout le décalage entre être célébré et d'un coup être critiqué. Mais après, alors je veux pas défendre la corporation, mais c'est vrai que les journalistes sont pas là pour encenser les performances. Est-ce qu'on est là pour protéger les joueurs? Non, mais en fait, tu vois ce que je veux dire? Je donne pas raison aux journalistes, mais l'équilibre est tenu.
En même temps, maintenant, avec le recul, je suis premier à dire que si on t'encense d'un côté, c'est qu'à un moment,
il faut être juste, c'est normal, complètement
d'accord.
Sauf que
à cet âge-là, c'est pas toujours facile de le prendre dans la tête, surtout quand t'as été encensé toute ta carrière.
Mais tout comme, et c'est des débats qu'on mène tous ensemble toute l'année, c'est pour ça que c'est intéressant qu'on ait cet échange aussi sur Paul Sexas, Victor Wembanyama, Léon Marchand, Antoine Dupont, Kylian Mbappé, nos champions, quand ils ont un jour moins bien, il faut pas commencer à dire, ça y est, c'est bon, il est nul, quoi. Ça y est, c'est bon, il nous a trahis.
La trahison, c'est totalement déplacé. En quoi Mbappé a trahi qui que ce soit, en fait?
On n'a pas tenu ces propos ici, mais c'est les débats ce sont des mots qui peuvent être utilisés aussi sur les réseaux aussi aujourd'hui, où tout est un peu ouvert. Alors, vous avez entendu le témoignage de Fred, là, on passe de héros à zéro. Ça vous parle, ça, Sarah?
Alors, oui, ça me parle, mais j'ai eu une expérience de vie. Alors, j'ai pas été très précoce. J'avais pas le gabarit pour être la future numéro 1 mondiale. En tout cas, je faisais mon petit bonhomme de chemin. Et donc, en 97, de souvenir, je pense que je suis dans le top 50 mondial. Ce sera ma meilleure saison. C'est-à-dire que je finirai 26e mondial juste après Wimbledon. Donc on est en début d'année.
C'est pas dégueu. 26e
mondial. Non, absolument, c'est pas dégueu. Et donc je suis à Sydney. Donc c'est le tournoi de préparation de l'Open d'Australie en début de saison. Et je joue Natasha Zvereva. Zvereva, pour ceux qui se rappellent, c'est une joueuse qui avait pris 6-0, 6-0 face à Steffi Graf en finale de Roland-Garros en 34 minutes. Donc, terrible. Et donc, je joue Natasha Zvereva. Et là,
une finaliste de Grand Chelem, quoi.
Finaliste de Grand Chelem, et je gagne 6-0, 6-0. Alors, pas en 34 minutes, mais je gagne 6-0, 6-0. Et dans les tournois WTA et ATP, si tu veux, t'es tous sur la même ligne, mais on cherche à mettre en avant les jeunes. Enfin, il faut raconter des histoires. Et donc là, je suis la petite française au fin fond de l'Australie qui bat Zvereva 6-0. Ils disent, bah tiens, on tient, j'ai 22 ans, voilà, on tient une future pépite du tennis mondial. Et alors là, je me retrouve à la télé en Australie, à faire de la promo.
Ça va plus que Sky.
Enfin voilà,
tu parles bien anglais.
Ben oui, je parlais bien anglais.
Enfin, non, c'est important.
Je parlais bien anglais.
Je te retrouve sous le feu des projecteurs, quoi.
Ouais, je me retrouve sous les feux des projecteurs alors que je faisais mon petit bonhomme de chemin. Enfin, j'étais pas.
Jusqu'à maintenant, on t'avait jamais présenté comme la pépite ou la craque
à venir.
Oui, et
j'étais pas en deuxième semaine de Grand Chelem. Je faisais mon petit bonhomme de chemin, des quarts, des demi. Je gagnais des ITF. Enfin voilà, et donc je me retrouve sous les feux de la rampe, sauf que je perds le tour d'après et que voilà, je retombe dans quelque chose de normal. Et pourtant, je fais une super saison. Je vais gagner mon premier titre WTA. Je vais finir 27e mondial.
Mais le contraste. C'était dur quand le rideau tombe, quoi. T'étais une star et d'un coup, t'as perdu.
On m'a vu plus belle que finalement je n'avais les capacités réelles de tout ça. Et je me souviens aussi, cette année-là, donc on est à Miami, donc on joue le tournoi de Miami, et t'as des... Comment dire, t'as toujours des opérations de relations publiques, et donc je me retrouve avec Jean-Michel Gambill qui était à l'époque un Américain mais splendide, mais un garçon mais d'une beauté, et donc on va à l'Océarium à côté de Miami, et donc comme je faisais encore partie des jeunes qui jouaient pas mal, j'ai nagé avec les dauphins et avec lui, c'est-à-dire que je faisais les opérations de relations publiques.
T'étais une star, en fait.
Les deux, mon général.
Non, mais t'étais une star.
J'avais pas les résultats.
Est-ce que ça t'a fait souffrir, je sais pas si c'est le mot est bon, mais qu'en gros il y a une espèce de
j'étais mal à l'aise parce que on m'érigeait à un niveau de comment dire médiatique qui n'était pas mon niveau tennistique, il y avait un décalage.
Surtout
en fait,
t'avais pas attaché de presse ni rien, les gens.
Mais non, mais à l'époque on n'avait pas ça. Ouais. Et j'étais pas capable de battre la numéro 1 mondiale, j'étais pas capable de battre Sanchez.
Donc tu prends de plein fouet tous les appels des journalistes, des médias qui veulent parler avec toi.
Je gérais tout seul. Mais voilà, en fait on me voyait plus belle que j'étais, donc il y avait un décalage et j'étais presque gênée.
Tu t'en rendais compte sur le moment que c'était qu'il y avait ce décalage là ?
Bah bien sûr.
Toi tu t'es dit je vais en profiter en fait du coup.
Tu savais déjà, Sarah, que t'étais pas taillé pour.
Mais non, enfin, il y avait un trop grand décalage physique sur le plan tennistique. J'ai été top 30 mondial.
Donc en fait, tu t'es dit, je vais juste kiffer, je vais aller nager avec des enfants et avec.
J'ai battu des numéros 10 mondial, j'ai battu des numéros 5 mondial.
Bien sûr.
Mais je, enfin voilà.
Mais c'est pas facile d'avoir ce recul sur soi-même et de te dire. Alors que je suis encensé, quand même, il faut que je garde les pieds sur terre sur ce que je suis.
Encore une fois, au tennis, c'est facile. Hein, tu prends les pieds sur terre, chaque semaine, tu perds.
Oui,
tu
c'est
finis
vrai.
Toujours.
C'est pareil dans tous les sports.
Mais oui, il y en a qu'un qui gagne. Et tu dis toujours au tennis, que je répète, au tennis, quand tu demandes ce que tu as fait dans la semaine, tu dis toujours j'ai perdu. Même en finale, tu dis j'ai perdu
en
finale.
C'est des notions d'humilité en permanence.
Tu dis pas j'ai fini deuxième comme au 100 mètres, par exemple. Donc si tu veux, c'est une autre manière de voir.
C'est la différence avec le basket, par exemple, où nous, quand tu as une belle équipe, normalement, en championnat de France, par exemple, tu gagnes. Tu gagnes beaucoup plus fréquemment que tu ne perds. Oui.
De héros à zéro quand on est porté au nu et que du jour au lendemain, comme les Bleus, pour certains, du coup, on compte plus autant. Voilà, on n'est plus aussi enthousiaste, on n'est plus aussi beau. Que vous partagez là-dessus, Pascal.
Pascal est toujours aussi beau, par contre. Pascal,
parce que quand tu gagnes, t'es toujours plus beau que quand tu perds.
Ça, les talents de sa voix. Pascal, bon, tu nous écoutes
En fait, ces montagnes russes, je les ai connues en tant que joueur et puis ensuite en tant qu'entraîneur. Donc, je suis habitué à ça et à plus forte raison parce que quand j'ai été entraîneur, entraînant des équipes souvent du bas de classement, donc j'ai souvent perdu, quelques fois gagné, mais toujours est-il que ça commence très vite pour moi. Et c'est un peu comparable à la vie de chacun d'entre nous, sauf que c'est exacerbé parce que c'est le monde du sport, parce qu'il est médiatisé, même dans les années 80. Donc moi, j'étais promis un très bel avenir au FC Sochaux parce que j'étais porté par le directeur sportif qui décidait de tout. Et puis du jour au lendemain, il a plus pu me saquer. J'ai pas su pourquoi. Voilà. Donc ma carrière de footballeur, elle a existé malgré tout ailleurs. Mais déjà très vite, alors que tu fais des sacrifices, tu sais pas pourquoi. Tout d'un coup, il y a un type qui t'ouvre les bras et qui tout d'un coup les referme. Donc là, si t'as pas un entourage jeune, j'ai 17 ans et quelques, si t'as pas un entourage on va dire taillé, bien taillé, avec des parents qui te protègent, bah tu peux là déjà exploser, parce que tu comprends pas à cet âge-là ce qui t'arrive. Et puis ensuite, si je vais beaucoup plus loin, quand je suis entraîneur de mon club de toujours, j'ai la faiblesse de dire que le Lévy Antonon Gaillard, nous l'avons construit à plusieurs. Mais celui qui a pensé le projet sportif avant les autres, bah, personne pourra me contredire, c'est moi. C'était dans les années 91, le club était au 9e ou 8e niveau de la hiérarchie nationale. Donc il n'y a qu'un fou qui pensait faire revivre le football professionnel en Haute-Savoie. Donc c'était mieux. J'ai beaucoup initié, beaucoup insufflé, aidé encore par beaucoup, bien entendu. Et puis ce club, moi j'étais un peu la star de ce club. J'étais
l'incarnation
de ce club. Et ce club, je l'ai toujours incarné en tant que directeur sportif, puis incarné de nouveau en tant qu'entraîneur, placer des personnes à des postes importants. Et puis il se trouve qu'un jour, quand le club, après 4 ans de Ligue 1, est descendu en Ligue 2, les personnes que j'avais placées, installées, c'est ces mêmes-là qui m'ont viré. C'est comme ça.
Est-ce que tu leur en veux ou est-ce que c'était le meilleur choix?
Je pense jamais à eux, en fait. Si t'es mieux, c'est ma manière de pas leur en vouloir. C'est que je pense jamais à ces gens-là. J'ai pas de rancune, si t'es mieux. J'ai de la rancune quand c'est récurrent. C'est-à-dire que, par exemple, vous parliez de journalistes tout à l'heure, et tu as raison de le dire, Georges. Les journalistes, ils sont là pour commenter l'actualité, et ils sont pas là pour nous cirer les pompes. Mais par contre, il me semble que j'ai fait deux, trois trucs pas trop mal dans le foot. Mais il se trouve qu'il y en a qui me cirent jamais les pompes, qui ne font que me défoncer. Tout le temps. C'est gratuit. Et là, donc, il faut que t'aies quand même le cuir épais. Parce que ça touche, bien sûr, au plus profond de toi, celui qui me dit, si aujourd'hui Didier Deschamps, il me dit qu'il n'est pas, tout au long de ses 14 années, il n'a pas été touché par ce qu'il a dit sur lui, c'est qu'à ce moment-là, il travestit un peu la vérité.
Mais alors c'est intéressant.
On est tous humains.
Comment on arrive justement à vivre ça, faut se blinder.
C'est
l'expérience.
Une expérience de plus, c'est positiver, pour ma part en tout cas, c'est de me dire, mais j'ai, même gamin, bien sûr, je rêvais d'être footballeur professionnel. Bien sûr, ensuite, je rêvais même pas d'être entraîneur professionnel. Tout ce qui m'est arrivé, c'est quelque chose de magnifique. Donc, je vais vers le verre à moitié plein tout le temps. Je me soucie pas du verre à moitié vide.
Ouais, mais il faut être conscient aussi, critiques. Je pense, les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, de la violence de certains moments.
Ah, par exemple,
je sais pas.
Mais...
À Toulouse, t'as été une superstar aussi. Quand tu l'as sauvé, il y avait des supporters qui avaient ton visage en masque, je me rappelle, tribune. Et quand t'es plus à Toulouse, l'entraîneur qui n'est plus là, il se retrouve chez lui tout seul, il n'a même plus contact avec les joueurs.
Ah,
c'est ça, la vie d'entraîneur.
Tous les gens qui te cirent les pompes, qui t'appellent, ton téléphone, c'est bien simple, il est... plein de messages quand tout va bien. Tu reçois des messages de personnes, mais ça fait 30 ans qu'elles t'ont pas appelé, ces personnes-là. Donc elles te remercient, ça te fait du bien quelque part, il faut le reconnaître, ça titille un peu ton orgueil. Et puis du jour au lendemain, quand tu es sans club, sans boulot, il y a plus que tes proches et ta famille qui t'appellent. Plus personne te calcule. C'est comme ça, mais c'est du jour au lendemain. C'est ce qu'il faut comprendre.
C'est la différence entre l'entraîneur et le joueur. Le joueur, moi, l'avantage, c'est que je savais qu'à un moment, quand j'ai gagné en expérience, je savais que en travaillant, en revenant à mes basiques, en étant performant par rapport à moi-même, je savais m'auto-évaluer. Donc, j'avais pas besoin que les journalistes m'évaluent en bien ou en mal. Et donc, ça m'a permis de me détacher de ce regard-là. Mais encore une fois, c'est l'expérience qui m'a permis. C'est les coups. À force de prendre des coups et de dire, c'est un peu injuste, ou, là, j'ai été bon, mais pas à ce point-là. Moi, je me rappellerai toute ma vie quand je signe à Malaga, en Espagne, le coach, c'est Bozidar Maljković. Bozidar Maljković, dès que j'arrive, il dit, Fred, c'est le meilleur défenseur d'Europe. Toute la saison, même quand j'étais nul, les mecs disaient, quelle défense de Fred Weiss. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que les journalistes, ils connaissent rien, pourquoi? Qu'ils écoutent les mecs qu'ils sont censés connaître, et donc, qu'il fallait mieux que je m'auto-évalue, parce qu'à un moment, je défendais plus parce que j'avais plus besoin de défendre, on considérait que je défendais bien tout le temps. Mmh. Donc, je m'auto-évaluais et je me mettais justement à la tâche quand je trouvais que c'était pas bon.
Tiens, vous savez que les rendez-vous du sport, c'est un espace d'échange, évidemment, avec vous aussi. Fredo me dit sur WhatsApp, pour une fois, Georges, je vais pas être d'accord avec toi sur cette sempiternelle réflexion des journalistes pour justifier leur propos, vous n'êtes pas là pour encenser ou protéger, ce qui permettrait de tout justifier. Par exemple, le quatuor offensif des Bleus, vous l'avez tous mis au Panthéon pendant ce mondial en disant que c'était les meilleurs et maintenant ce sont des nuls. Alors j'exagère volontairement, je lis le message. Mmh. Vous avez un devoir de mesure dans les deux sens dans vos propos et vous êtes aussi critiquable et responsable dans vos écrits. Tu as tout à fait raison, ouais. Fredo, là-dessus. Tu sais, l'exercice de remise en cause, il est pour tout le monde. Hein. Les journalistes, on n'a pas la bonne parole, la bonne analyse. Parfois, un jour on est bon, un jour on est moins bon, hein, comme tout le monde. Hein.
Bon,
non, mais comme le boulanger, un jour il fait une bonne baguette, l'autre jour il fait une baguette un peu moins bonne. Hein. Non, mais comme tout le monde. Tous les jours. Georges, en fait, l'important c'est l'humilité, en fait, face à tout ça, dans notre travail.
Aujourd'hui, malgré tout, alors encore une fois,
reconnaît que la frontière est difficile et l'équilibre.
Oui, pour côtoyer les journalistes, votre travail est un vrai travail, qu'on soit bien d'accord. Hein, il faut faire des recherches. Il faut, comment dire, souvent le bon journaliste étaye, recoupe les infos qu'il balance. Mais aujourd'hui, on est dans un monde où le trash, ça plaît quand même. Hein.
En même temps, on n'a plus le droit à l'erreur. Plus de droit à la moindre erreur. Mais dans tous les corps de métier, d'ailleurs.
Ouais. Plus on balance, plus on a l'impression que les gens s'en satisfont, quoi, tu vois. Donc ça, c'est difficile à appréhender quand tu es celui qui est flingué, quoi. Et bon, tu es celui qui lit des critiques sur d'autres, bon, ça peut te toucher parce que tu es sensible, parce que c'est ta corporation. Mais quand ça te touche directement, il faut savoir une chose, c'est que ça touche davantage que toi. Et là, quand ça touche tes enfants, quand ça touche tes proches qui prennent ces critiques-là, là, c'est quand même difficile à supporter quand on vous critique, alors que vous êtes le coach qui a été perdant, donc quand on vous critique, mais ça rejaillit aussi sur tous les membres de votre famille qui savent combien de sacrifices vous faites pour en arriver là.
Non, mais c'est évidemment intéressant d'avoir cet échange et il faut savoir le mettre sur la table, hein, voilà, pour en parler dans le vestiaire de héros à zéro. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler parce que il y a même des thématiques qu'on a à peine pu évoquer, mais c'est un large sujet bien sûr. Là-dessus, vous le retrouvez en podcast, évidemment. C'est la mi-temps entre le 15 de France et le Japon à Tokyo. Pierre Thévenet, je vais t'appeler Bernard Thévenet.
Le mec est trop en
Tour de France, quoi.
13 points d'avance pour les Bleus à la mi-temps, 28 à 15. Maxime Lucu a rajouté un essai et les Japonais ont également marqué par l'intermédiaire du talonneur Hera. 4 essais donc pour les Bleus, Lamotte, Jalibert, Roumat et Lucu pour permettre aux tricolores de basculer en tête à la pause, 28 à 15. Pour l'équipe de France face au Japon.
Du coup, à cause de mon lapsus, on va être obligé d'éclaircir les choses. Hein. Aucun lien.
Aucun lien.
Pierre,
aucun
lien. Parce que là, les auditeurs vont se poser la question et tout. Ouais. C'est incroyable. Est-ce que c'est lui le futur vainqueur du tour et tout? Bref, la folie. Allez, on revient dans un instant pour parler des Bleus face à l'Angleterre ce soir. Une défaite ferait tâche, même dans un match pour la troisième place. On en parle avec vous au 32-7 sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport avec Fred Weiss, avec Sarah Pitkowski, avec Pascal Duprat. On a parlé il y a quelques instants dans le vestiaire quand on passe de héros à zéro, quand on est tout ou rien, quand on est les plus beaux et après il y a des grosses critiques. Alors j'ai reçu plein de messages sur WhatsApp en disant ouais, mais il y en a plein qui ont critiqué également chez vous sur RMC qui ont été très durs. Mais vous savez, mais RMC c'est ça, c'est un espace de débat et justement on vous donne la parole aussi pour que vous nous expliquiez que vous n'êtes pas d'accord avec nous et évidemment il y a de la place pour toutes les opinions, pour en débattre. On se trompe, on a raison, finalement ça ne veut pas dire grand chose, hein. Se tromper, avoir raison parfois aussi parce que ce sont des opinions, mais parfois ça veut dire quelque chose, il faut être juste également. Allez, dans un instant les jeux du sport, les amis, vous savez que vous avez votre place également au 32-16 pour participer, vous avez votre place tout le temps dans cette émission, mais d'abord donc pas de finale pour nous demain, il va falloir se contenter de cette petite finale ce soir.
RMC, les GG sur le buzzer.
Les Bleus qui vont voir le match pour la troisième place. Bien, hein. Ce sera à Miami. Il y aura un dernier match donc pour les Bleus dans cette Coupe du Monde.
Et Flex, qu'est-ce qu'on va faire?
Je n'en sais rien. Que veux-tu faire?
On a notre rendez-vous. Qui nous attend? Notre devoir à tous, c'est de tout faire. C'est le dernier de la compétition.
Gauche toujours, Ziggy. De quel côté qu'on aille, tout est mort.
Bon, on verra samedi 15h, ou je sais pas à quelle heure il est le match. On verra, mais pour l'instant, on n'a qu'une seule envie, c'est oublier.
Eh hey, les gars, regardez. Regardez ce qui s'amène là.
L'Argentine sort d'un nouveau miracle. L'émotion du siècle encore pour l'Argentine qui vient terrasser l'Angleterre.
Qu'est-ce que c'est que ce truc-là?
Avec l'Argentine qui a battu l'Angleterre, Espagne-Argentine en finale, France-Angleterre pour la troisième place.
Les amis, allez, nous allons nous amuser avec ce drôle d'oiseau. Ce sera marrant.
Aucun de nos joueurs ou des joueurs de la France n'a envie de jouer ce match. Ils ont tous envie de jouer la finale. Ils veulent jouer pour remporter la Coupe du Monde. mais c'est comme ça.
Et voilà, c'est comme ça. Il va bien falloir jouer ce match. Oasis à l'accordéon, c'est la folie quand même. Ça rend tout de suite des trucs un peu différents, un peu moins grandiloquents. Voilà, c'est la troisième place, quoi. C'est pas là. Attention, hein. Respect à tous les accordéonistes du monde, on veut se fâcher avec personne. Mais c'est vrai qu'un orchestre symphonique, par exemple.
Vas-y, cite-moi un accordéoniste célèbre.
Il y a Turner, Tour de France.
Elle est décédée.
Et alors, elle est célèbre ou pas? La célébrité, ça dépasse la vie et la mort.
Ouais, tu peux me dire quelqu'un de vivant quand même.
Une capacité à te répondre qui est répartie.
Claudio Capeo,
c'est vrai. Claudio Capeo, qu'est-ce qu'il chante déjà, Claudio Capeo?
Je sais pas.
Ouais, il chante pas mal.
Bon, attendez, là, on est parti dans un truc.
Oui.
Il va falloir le jouer, ce match, hein, face à nos rivaux anglais, pas très motivés non plus, France-Angleterre, pour la troisième place de la Coupe du Monde. C'est ce soir à 23h sur RMC depuis Miami. Les GG, je vous pose cette question très simple. Est-ce qu'une défaite des Bleus face aux Anglais ce soir, est-ce que ça ferait vraiment tâche, Pascal?
Non.
Sarah?
Un petit oui.
Ça part au premier lavage, mais.
Ouais.
Fred.
Oui.
Oui, grosse tâche. Galère. Faut mettre du vinaigre et tout.
Bah oui, bien sûr.
Savon noir et tout.
Vinaigre blanc.
Surtout. Vinaigre blanc, très important. Vous attendez au 32-16 et sur WhatsApp. Au 06 12 424. Jean-Louis Tour, au plus près de l'équipe de France depuis Miami pour RMC. Rebonjour Jean-Louis.
Salut Georges, salut les grandes gueules du sport.
Jean-Louis, on va avoir une équipe B ce soir face à l'Angleterre.
Ah, pas tout à fait, parce que Deschamps a rappelé le devoir de responsabilité quand on porte le maillot bleu, même quelques jours après une grosse déception comme cette demi-finale contre l'Espagne, et que c'était quand même mieux de finir troisième que quatrième. Après, le sélectionneur ne s'en est pas caché, il va faire tourner par choix pour certains, d'ailleurs hier Upamecano et Marcus Thuram ont été ménagés, par obligation pour d'autres, on pense aux blessés William Saliba ou Brice Samba. Mais selon nos informations, il conservera tout de même quatre joueurs qui ont débuté contre l'Espagne. Mike Maignan sera dans les buts, une défense de droite à gauche, Malogou Gusto, Ibrahima Konaté, Maxence Lacroix et Théo Hernandez. Au milieu de terrain, Warren Zaïre Emery et Adrien Rabiot. Et un quatuor offensif composé de Ryan Cherki, de Michael Olise, de Désiré Doué et de Kylian Mbappé, qui voudra aller chercher le titre de meilleur buteur du tournoi.
Évidemment, on en a parlé tout à l'heure de Kylian Mbappé qui peut aller chercher le trophée, le soulier d'or. Hein. Il faudra attendre aussi la finale de Lionel Messi demain face à l'Espagne. Une défaite des Bleus face aux Anglais ferait-elle tâche? Tu dis petite tâche, Sarah. Pourquoi?
Petite tâche parce que petite tâche parce qu'il faut bien finir en fait je la mets en balance avec cet espoir, cet enthousiasme proportionnel à ce qu'on nous a vendu en fait et ce qu'on a espéré et finir sur une défaite,
ça rééquilibrerait un peu la balance.
Non, bah non, justement, finir sur une défaite, ça ne ferait que engendrer encore un peu plus de déception parce qu'on nous a vu tellement beau et on a fourni un football tellement fantastique. On a quand même eu le sentiment que cette équipe, elle était en mission et on nous l'a vendu, les méchants, la mission pour qu'il faudrait le faire. Et puis c'est mieux
si on est vraiment méchant, il faut le gagner quoi en fait.
Ouais, il faut le gagner et puis c'est contre l'Angleterre quoi. Oh. Et ça va quoi. Alors, non mais les France-Angleterre.
Qu'est-ce qu'il veut?
Non mais c'est nos meilleurs ennemis.
Oh, Jeanne d'Arc et tout ça, la guerre des 100 ans.
Non mais même c'est
Guillaume le conquérant,
ennemis.
Il est là-bas, mais bon.
C'est nos meilleurs ennemis et j'étais regardé, enfin je lisais que on a joué 4 fois cette fameuse médaille de bronze.
Oui.
Et on l'a remporté 3 fois.
Ouais, on ne sait pas tout ça, ça. Hein.
Ben non, on ne sait pas tout ça. En Belgique, face à la Belgique en 86 et la Ligue des Nations face à l'Allemagne.
La Ligue des Nations,
mais
c'est autre chose.
Ouais. Mais c'est vrai. On finit troisième quand même. Quoi.
86, c'est vrai que, mais avec 86, ça avait plus de valeur, peut-être parce qu'on n'avait jamais été champion du monde avant. Donc, on connaissait même pas le goût du caviar, en fait. Pascal, toi, sur la défaite, est-ce qu'elle prétache ou pas?
Surgeons, quoi.
Toi, tu dis non, très clairement.
Je dis non parce que la tâche, elle est déjà là. Quoi. La tâche, c'est d'avoir perdu contre l'Espagne parce que l'équipe de France. Alors, je suis
pas trop d'accord avec Sarah sur le fait qu'on nous a vendu le fait que l'équipe de France était
en mission. Ouais. C'est une réalité.
Les joueurs de l'équipe de France, par le spectacle qu'ils nous ont proposé pendant les 6 premiers matchs,
nous ont
laissé à croire qu'ils allaient être champions du monde.
Ouais.
Et pour ma part, la tâche, elle est là depuis. En fait, il y a une heure et demie où l'ascenseur est émotionnel, où tu te dis la France va être championne du monde avant le match de l'Espagne, franchement. Et depuis longtemps, je pensais que la France allait être championne du monde. Et puis, voir ce match aussi pauvre.
Tu te dis, on n'est pas invité, en fait. En fait, on n'est pas invité.
On n'est pas invité tout d'un coup. Et là, en une heure et demie, donc, tout patatrac. C'est-à-dire que la tâche, la nappe, elle est sortie de la table, les verres ont giclé, les assiettes. Enfin, bref, quoi. Il n'y a plus rien sur la table.
C'est. Faut tout ramasser après, c'est chiant.
Faut tout ramasser, faut tout balayer.
Mais ça prend du temps.
Non, mais t'as raison.
Toi, c'est pas en balayant que ça te fera aller mieux, quoi. Tu vas garder le traumatisme du fait que tout est tombé, en fait.
Ah ouais, la tâche, je l'ai jusqu'au prochain match éliminatoire de l'équipe.
Métaphore.
Oui, j'espère qu'on va avoir un sponsor, cette victoire, elle va penser un peu les plaies. Enfin, en tout cas, moi,
c'est. C'est l'Angleterre.
C'est des grands coups de
l'Angleterre.
Ouais. Bon, Fred, non, toi. Non, t'en as joué des matchs sur la troisième place.
Je pense évidemment l'inverse. Finir sur une bonne note, c'est extrêmement important. Quand tu as eu cette désillusion, oui, c'est une désillusion énorme, mais ils le doivent aux supporters. Ils doivent montrer leur meilleur visage. Ils ne doivent pas se laisser abattre. Ils doivent finir sur une bonne note. Oui. Effectivement, il y avait déjà une énorme tâche du fait de ne pas jouer la finale. Sauf que ça va s'accumuler, les tâches, à un moment. À un moment, le fait de se dire que tu n'as pas été capable de te ressaisir sur le dernier match, de te relâcher. Moi, j'ai eu la malchance de perdre contre la Grèce en demi-finale en 2005. Je peux te dire.
C'était à l'Euro.
À l'Euro. On mène de 7 points. Il reste 50 secondes. On doit gagner. On perd. Et bien finalement, ça a été extrêmement important pour nous.
C'était nul.
De gagner le match de la troisième place. Parce que tu clôt quelque chose en disant OK, on a perdu contre une équipe qui a certainement mieux joué que nous, qui est peut-être plus forte que nous. Mais
et là, vous avez dû recevoir plein de critiques en plus. Attention, vous avez perdu.
Plein de critiques. Sauf qu'après, tout le monde a dit ah ben voilà, ils ont réussi à se ressaisir et c'est important.
Ça rééquilibre un peu le.
Et pour plusieurs raisons. Et je veux que Mbappé marque plein de buts. Je veux que Deschamps finisse par une victoire.
Après le
et
truc,
je trouve que tout serait magnifique. Ouais.
Après le truc, c'est qu'en basket, on valorise un peu plus la médaille, le podium. Sarah, la question que tu posais tout à l'heure, elle témoigne de quelque chose sur est-ce qu'il y a vraiment une médaille de bronze. Même Eric le savait pas, je crois. Dimeco. Oui, il y a une médaille de bronze.
On nous fera une médaille de bronze. Tu vas chercher la médaille de bronze. Là, tu joues ta petite finale. Au moins, ne nous fais pas honte. Au moins, fais-le comme il faut. Et j'ai juste envie de terminer en disant si tu gagnes, peut-être qu'on s'en souciera pas. Prends si tu perds, on va tirer à balles réelles encore plus.
Oui, ça, non mais Pascal, c'est vrai que la médaille de bronze, c'est pas culturel dans le foot en plus.
Oui, la culture, ça change. Mais
Là encore une fois, j'essaye de répondre à la question telle que je le ressens. Mais par contre, il fait aucun doute pour moi que l'équipe de France va être à niveau contre l'Angleterre et que les joueurs vont tout donner. Didier Deschamps va savoir trouver les mots, les leviers motivationnels pour que l'équipe de France retrouve son standing qu'elle a perdu l'espace d'une heure et demie contre l'Espagne. Mais complètement balayé, un ouragan espagnol, ok, auquel on s'attendait pas. C'est pour ça que moi je suis sonné, en fait.
Oui, c'est et on l'est encore, en fait. C'est ça le truc. Oui. Encore groggy en fait. Tout le monde est groggy.
La victoire de l'équipe de France contre l'Angleterre, si tel est le cas, elle va pas me remettre mes deux pompes dans mes pantoufles. Je vais avoir besoin de temps pour comprendre ce qui est arrivé. Tant cette équipe, elle a le potentiel. Ça, j'en suis convaincu. Ceux qui disent qu'on nous a vendu du vent, que c'était je sais pas quoi, là.
C'est ça.
Non, ça, c'est pas vrai.
On a affronté des petites équipes.
On n'existe plus des petites équipes aujourd'hui en football et en sport en général. Mm. Toutes les équipes sont performantes aujourd'hui, peu ou prou. Donc l'équipe de France, elle a sous-performé à un point qu'on ne pouvait pas l'imaginer. C'est pour ça que pour moi, la tâche, il va falloir un paquet de, je ne sais pas comment ça s'appelle, le truc.
De lessive, quoi.
Il en faut beaucoup.
Le petit carré, là, comment ça s'appelle.
Oui, c'est ça.
Et tu mets dans la machine.
C'est ça.
La dosette,
ouais. Dosette. Alors maintenant, t'as un peu tout là, la dosette avec le.
Vous
êtes plutôt liquide ou dosette?
Moi, je suis plutôt liquide. Moi, je mets une petite serviette qui absorbe les couleurs.
À la main, tu travailles avec le truc à la main.
Ouais,
à froid et tout, parce qu'il y a des choses qui sont un peu sensibles. terrible. Hein.
Quand t'es en stage pendant un mois, tu laves à la main.
Ah oui, c'est vrai, dans le lavabo de la salle de bain.
Exactement.
Bon, bah écoutez, c'est intéressant, hein, en tout cas. Hein, tout
ça. Investir.
Non, mais là, au moins, c'est quelque chose qui est concernant pour tous nos auditeurs et qui se retrouvent là-dedans sur comment on affronte les tâches. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Parce que la question, c'était est-ce qu'une défaite des Bleus face aux Anglais ferait tâche, évidemment. 23h ce soir, le match pour la troisième place. Moi, j'imagine pas qu'on passe à côté de ce match, hein, franchement, je vous le dis. C'est pas le genre de cette équipe,
c'est
pas le genre d'Yves
Deschamps. Hein.
Non, mais en plus, c'est face à l'Angleterre. Oh,
ça va, hein?
Ça va pas ou quoi? Ça, c'est bien, j'aime bien, ça va. La rancœur, elle veut créer un crunch du foot. Ça, en fait, le problème, c'est que les Anglais, on les a surtout battus en foot. On n'a pas trop de.
Justement, il faut qu'on enfonce le
flou. Il faut qu'on.
Les Anglais,
non, non, mais Sarah, depuis ce matin, c'est, elle me met les poils. J'ai envie qu'elle devienne coach des grandes villes du sport. Bon, le 15 de France est reparti au Japon, à Tokyo. Pierre Thévenet, deuxième mi-temps. Les Bleus toujours devant dans le championnat des nations.
Ça n'a pas bougé. 28 à 15 en faveur de l'équipe de France. Attention là, après ce ballon récupéré dans les airs par Théo Atisogbe. Alexandre Roumat est repris à 2 petits mètres de l'en-but japonais. Atisogbe qui sort le ballon côté gauche et un en avant de la part des Japonais. C'est conservé par Aaron Grandidier Nkanang. On va pouvoir repartir tranquillement côté tricolore à une vingtaine de mètres de l'en-but japonais. Mathieu Jalibert qui s'échappe et qui vient marquer un doublé, l'arrière bordelais, pour redonner un petit peu d'air au 15 de France. 33 à 15 avant la transformation qui va passer puisqu'on est sous les poteaux, et ça va donc faire 35 à 15 en faveur de l'équipe de France à la 43e minute de jeu.
Ah, Pierre, t'aurais imaginé écouter Sarah Pitkowski faire la causerie avant Japon en France. On peut pas perdre contre le Japon.
Ça
va, hein. Allez, à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Il faut le gagner, et puis c'est contre l'Angleterre, quoi. Oh, Georges Quirino.
Fred. Oh, Pascal. Non mais Pascal, en fait, elles étaient éclatées, tes causeries avant. Si tu rajoutais pas un oh. Oh, Sarah. Coach Pitkowski ce matin.
Exceptionnel.
Extraordinaire, on adore. Allez, tout de suite, les jeux.
Les jeux du sport sur RMC avec le jeu du sport.
Avec qui? Bah avec nous, tout simplement.
Les jeux,
tout simplement.
Du sport avec les jeux du sport.
Je pensais qu'on avait gagné un sponsor de lessive entre temps, bon, tu vois. Et j'étais assez content, quoi.
Mais bon, c'était en négociation et ça.
Ouais, ça a capoté juste au moment du lancement. On a beau avoir dit 50 fois tâche, lessive et tout, ça n'a pas marché. Je vous rappelle le principe, c'est du 2 contre 2, vous allez défendre un auditeur. Un nouveau challenger est rentré en studio. Une voix bien connue des grandes gueules du sport. Bonjour François Pinet.
Bonjour Georges Quirino, bonjour à tous.
Quel plaisir de te revoir autour de la table.
Bonsoir. Je ne perds jamais.
Ah,
je déteste ça. Je suis un peu comme Didier Deschamps.
Soit tu gagnes, soit tu apprends. Tu vas apprendre, t'inquiète pas.
C'est vrai que, attention François, quand ça commence à jouer, ça devient sérieux, un autre homme.
Ouais.
Incroyable Hulk.
On m'appelle le Dark Pinet.
Et sinon, l'humilité?
Non, t'en es pas là pour ça.
Il joue avec qui? Parce que c'est ça qui m'intéresse.
Équipe Pitkowski Pinet.
Avec
toi.
Et l'équipe Duprat.
Allez, c'est plaisir, on va les écraser.
Allez François,
Je
suis motivé là.
Je rappelle que la question impossible est activable par un seul joueur par émission. François, il est le seul à jouer, celui qui l'active. Une bonne réponse, c'est 3 points. Mais si t'as une mauvaise réponse, c'est 1 point en moins. Donc
j'ai compris.
Il y a un malus.
Le mieux, c'est de pas avoir affaire à cette question-là. Ça veut dire qu'on a pris de l'avance.
Allez, on accueille les auditeurs. Philippe de Corrèze et Hugo d'Ille-et-Vilaine. Salut les amis.
Salut l'équipe.
Voilà, bonjour. Philippe, je vois qu'il est préparateur mental, donc normalement il va préparer son équipe. Philippe, tu choisis quelle équipe? Duprat Weiss ou Pitkowski Pinet?
En tant que bon Limousin, Fred Weiss.
Bah, j'ai besoin d'un préparateur mental, c'est bon.
Et pourtant, Fred ne dit pas toujours bien du Limousin.
Toujours.
Non mais je rigole. Bien sûr, Hugo, tu es donc avec l'équipe Pitkowski Pinet. Mais non, mais bien sûr,
tu vas gagner. Hugo.
Avec Dark Pinet, Hugo, voilà. C'est pas avec Pitkowski.
On lâche rien.
Allez, remportez aujourd'hui, les gars, un bon cadeau de 50 euros à valoir sur Agfa Photo Print. C'est super avant les vacances pour faire votre album photo. Allez, question à une seule réponse, François. Important d'écouter à chaque fois la règle de la question. L'énoncé. Question à une seule réponse. L'Espagne a gagné la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Contre qui en finale?
Pays-Bas.
Bien joué, François.
En même temps, le foot, c'est mon dada.
On va voir ça tout de suite. référence à une vieille publicité, c'est mon dada et tout ça. Voilà.
Ah oui, là, vous n'avez pas rajeuni la photo, là, c'est sûr.
1-0 pour l'équipe. 72 ans, on ne dirait pas comme ça, mais.
1-0 de jeune homme, mais bon.
1-0 pour l'équipe Pitkovski, Dark Pinet. Question à plusieurs réponses. À plusieurs réponses. Le Tour de France, vous le savez, on l'a dit tout à l'heure, arrive au Markstein aujourd'hui dans les Vosges. Qui a gagné là-bas il y a 3 ans sur le Tour?
Pogacar,
Sarah Pitkovski et Dark Pinet, 2-0.
Allez.
D'ailleurs, c'est Dark Pitko aujourd'hui aussi. Ouais. Hein, donc, il y a quelque chose.
Question
auditeur, c'est pour vous. Philippe et Hugo, vous donnez votre réponse et ensuite votre prénom, comme ça je peux bien identifier qui a donné la réponse. C'est OK, les gars?
Oui.
Okay. Contre qui joue en ce moment même le 15 de France?
Le Japon.
Philippe, le Japon, ça a été plus rapide. Bien joué, un point pour l'équipe Dupra-Weiss.
Merci.
35-15 pour les Bleus en ce moment.
Vous pouvez le remercier.
Face au Japon. Après 48 minutes de jeu, on va retrouver.
C'est pas avec vous qu'il va gagner, Philippe. Il a raison de la jouer perso, Philippe.
Question à une seule réponse. 2-1 pour l'équipe Pitkovski. Pinet face à Dupra-Weiss. Une seule réponse. Une seule réponse. Nous sommes en 2026.
C'est vrai.
Il y a 30 ans. Quelle athlète française était double médaillée d'or au JO?
Marie-Josée
Pérec, Pascal Dupraz.
Bien joué, Pascal.
200 et 400 mètres à Atlanta.
Ah oui, c'est vraiment que le foot, lui. Hein.
Ah, non, mais c'est pour vous laisser vous amuser un peu, les amis.
Micro-sieste.
Mais non, mais il faut un peu de suspense, sinon.
Vieux de Barcelone.
Non, c'était Atlanta.
Non, parce que c'est en 92, elle prend aussi une médaille.
Oui, mais c'est pas la question. Je peux dire qu'elle a gagné un truc.
Je crois qu'il a dit 30 ans en plus. Hein. Si on calcule rapidement.
2026, 1992.
Attention, vous perdez du temps. Deux partout. Question à une seule réponse. Allez. En 1986, contre qui la France a joué et gagné son match pour la troisième place?
Belgique.
C'est... On a entendu Jean-Marc Ferreri ce matin. Jean-Marc Ferreri
était dans
l'excellente émission.
Et je l'ai dit tout à l'heure.
Mais c'est François qui l'a dit en premier. Le point est pour l'équipe.
Ouais, mais c'est pour
Pinet. Allez, bien sûr, pareil. Les Dark.
On ne peut pas avoir deux points parce qu'on est dû avoir donné
ça. Ça ne marche pas comme ça. Philippe et Hugo, question pour vous. Question de rapidité. Vous donnez votre prénom. Actuellement, sur le Tour, qui est le meilleur Français au général?
Facile.
Philippe, vous dominez outrageusement,
mais il y a 3-3.
Ah ouais, Philippe, tu portes Fred Veil, c'est Pascal Dupraz sur ton dos, et je peux te dire que c'est pas du léger.
Courage. Tu parles pour Pascal?
Je l'ai pas eu depuis un moment, je sais pas si dans ce moment.
Il fait de la boxe tous les matins.
Allez, 3 partout, c'est très serré. Question à élimination, c'est pour 2 points. Je rappelle le principe, vous répondez à tour de rôle.
Ah, je déteste.
Une erreur et vous êtes éliminé. Sarah, hop, tu reprends à ta place.
Sarah, tu reprends à ta place.
On a le droit quand même au stylo.
Et vous avez le droit au stylo, mais vous n'avez pas le droit de vous donner des réponses entre vous, sinon ça compte pas.
Non, c'est pour voir ce que je note.
Écoutez-moi bien. Donnez-moi, s'il vous plaît, tous les adversaires de l'équipe de France sous Didier Deschamps en phase éliminatoire en Coupe du Monde, c'est-à-dire après la phase de groupe, tous les adversaires affrontés par les Bleus de Deschamps.
Attends, en phase éliminatoire?
C'est-à-dire à partir de 8e de finale ou 16e de finale maintenant. Il y en a 12, les adversaires de Didier Deschamps et des Bleus. On commence par toi, François.
Espagne.
L'Espagne, le dernier en date, effectivement. Fred.
Maroc.
Le Maroc affronté deux fois sur les deux dernières Coupes du Monde. Sarah.
Bah, le Paraguay.
Le Paraguay. Pascal.
Bah, la Suède.
La Suède. C'est bon, tu me le ranges sur téléphone.
Non, c'est pour
François.
Noter.
Ah, d'accord.
L'Argentine.
L'Argentine, évidemment, affrontée en 2018 avec le but de Pavard et en finale de la Coupe du Monde. Fred.
La Belgique.
La Belgique, évidemment.
C'est à moi, la Croatie.
La Croatie en finale, la deuxième étoile, ramener la Coupe à la maison, tout ça. C'est bon, Pascal.
L'Italie au Mexique.
Et c'est bien parce que l'Italie au Mexique, c'était pas contre la France de Didier Deschamps. Hein, mais après, si tu veux.
C'était la France de Didier Deschamps. Oui,
je veux bien que 14 ans de mandat, ce soit long. Mais bon, juste au Fontaine, il n'était pas coaché par Deschamps.
Après, en 98, Deschamps jouait. Et il y avait la.
Les Bleus coachés par Deschamps.
Merci de voler à mon secours.
Non, c'était François, mais ça n'a pas marché.
François.
Évidemment, l'Angleterre.
L'Angleterre, ça marche, la dernière fois en quart de finale. Fred.
Nigeria.
Nigeria au Brésil en huitième de finale.
J'ai un doute. 5, la Norvège.
4. Non, la Norvège est en phase de groupe éliminée. Il reste plus que François et Fred. François, 5. 4. 3. 2.
L'Uruguay.
En quart de finale en 2018. Fred. On cherche les adversaires des Bleus de Deschamps en phase éliminatoire en Coupe du Monde. 5. 4.
Portugal.
3.
Ah, j'en ai un autre.
Non, Portugal, c'est pas bon.
Pologne.
Le point est pour François. Il y avait la Pologne, l'Allemagne. Effectivement, l'Allemagne en quart de finale.
Question impossible.
Question impossible de Fred Weiss. Ouais, question impossible, s'il vous plaît, musique. Il y a 2 points d'avance pour l'équipe Lipkowski. Dark Pinet. Il ne reste plus de temps. C'est-à-dire que si Fred donne la bonne réponse, l'équipe Duprat Weiss s'impose.
On est assez tranquille.
Allez,
mon petit
frère, avec Philippe.
Attends.
Question impossible, basket. À 100 points près.
Oh là là.
Combien de points a marqué LeBron James dans sa carrière en NBA? À 100 points près. Je n'accepte qu'une réponse.
Il est en train de compter là.
Bien sûr, alors contre les Knicks, 385.
Les 40 points contre.
43 450. Ouais.
La réponse est 43 440.
Je reviendrai plus jamais.
Les jeux du sport sur RMC avec Agfa Photoprint. Gagnez 50 euros de bons cadeaux pour éditer un album photo ou développer vos pellicules et appareils jetables à petit prix en moins de 10 jours.
Fred a balancé son micro comme un crack qu'il est vainqueur.
Il a arraché son jeu du sport.
C'est ça. Incroyable. Merci Fred, merci Pascal, merci Sarah, merci François, évidemment. Dark Pinet. Ah, on veut le retrouver, ce personnage de Dark Pinet, hein, dans les jeux du sport. Allez, restez avec nous. Pascal, tu restes avec moi tout de suite. Les paris RMC.
Jusqu'à 13h. Les paris RMC.